Nous sommes en direct des studios de Culture Mosaïque au Maroc, au Centre culturel africain. Bienvenue au journal. Journée culturelle scientifique des étudiants subsahariens au Maroc. L'intersemestre offre à la jeunesse subsaharienne au Maroc la possibilité de promouvoir la culture, le vivre ensemble au Maroc. Retour dans ce journal sur un week-end très coloré à Marrakech ainsi que dans les autres villes du Maroc. Maroc Terre d'accueil, le Vox Pop de ce soir portera sur les expressions magnifiques et heureuses entre subsahariens et marocains. Nous irons dans les rues des principales villes du Maroc pour interroger marocains et subsahariens sur leur bonheur réciproque de vivre ensemble. Subsaharien au Maroc, la page du droit. Nous ouvrons ce soir notre semaine d'enquête, d'analyse et d'enseignement sur le droit de bail. Ange-Désiré Nioulé sera là pour nous guider sur ce terrain si glissant pour beaucoup d'étrangers au Maroc. Initiative africaine du jour, Culture Mosaïque a joint par téléphone pour vous un groupe de jeunes entrepreneurs camerounais au Cameroun qui ont lancé un magazine entièrement consacré à la femme. Femme Update est l'initiative de la jeunesse africaine à l'honneur ce soir. Et puis, vous le savez déjà, ils seront là parmi nous ce soir. Ils sont déjà dans ce studio. Najwa Zeroual pour la page de l'économie culturelle africaine. Omar Koné nous parlera du peuple Zoulou. Erin Vandor a fait la revue des réseaux sociaux africains pour nous. Et bien évidemment, notre enseignante de Darija, Sana Eloisi, sera là pour la leçon de Darija. Cela vous apporte beaucoup de plaisir. Vous êtes nombreux de plus en plus à nous écouter. Vous avez été nombreux la semaine dernière à liker la page Culture Mosaïque sur Facebook. Nous vous disons merci. Et bien évidemment, asseyez-vous tranquillement. Bon appétit si vous êtes à table. Attachez votre ceinture, nous allons décoller. Journée culturelle des étudiants subsahariens à Marrakech, la place de la jeunesse face aux défis du développement de l'Afrique. Tel fut le thème de la journée culturelle de la Sésame de Marrakech, la Confédération des étudiants subsahariens au Maroc, qui s'est tenue ce week-end samedi 23 et dimanche 24 avril 2016, réunissant plus de 20 nationalités présentes sur le royaume du Maroc. Cette édition de la journée culturelle de la Sésame Marrakech s'est déroulée avec un programme étalé sur 2 jours, prévoyant une conférence débat le samedi au sein de la municipalité de Guéliz et une grande journée d'exposition d'œuvres d'art, de culture vestimentaire et de mets d'origine subsaharienne, avant de se terminer par un spectacle au Théâtre Royal de Marrakech. La conférence, regroupant plusieurs dizaines de jeunes étudiants, avait comme intervenant d'illustres anciens étudiants subsahariens au Maroc, aujourd'hui manager d'entreprise, enseignant dans des universités marocaines ou en phase de spécialisation dans des filières médicales. Les étudiants ont pu donc profiter des conseils et des expériences des docteurs Fidel Kodja, président d'honneur de la Sésame Marrakech, ainsi que du Congolais Collins Samoukala, ingénieur au Managem Group de Marrakech, le docteur Antoine Akassou, camerounais et enseignant à l'université privée de Marrakech, Monsieur Brice Ilembi, gabonais, enseignant-chercheur à l'université privée de Marrakech, ainsi que du docteur Baudouin Boinimbek, lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Toujours dans le registre des activités culturelles subsahariennes au Maroc, à Fès, ce samedi 23 avril également, les étudiants subsahariens ont tenu à respecter une tradition vieille de 20 années en organisant la 21e édition du Forum annuel culturel et citoyen sous le thème hautement symbolique, le partenariat Sud-Sud, un vecteur du développement durable en Afrique. Pour cette occasion, la CESAM de la ville de Fès s'est associée au groupe Submanagement de Fès ainsi qu'à la Fondation Euro-Africaine pour la promotion de la recherche, de la culture et de l'éducation. À Mohamedia, du côté de cette ville, les étudiants subsahariens organisent leur journée scientifique et culturelle les 21 et 22 mai prochains, simultanément avec leurs homologues de la ville de Safi, qui eux aussi défendront les couleurs de la culture et du développement en Afrique, les 21 et 22 mai prochains. Mais plus proche de notre agenda, les étudiants subsahariens de Meknès organiseront leur journée culturelle et scientifique les 7 mai prochains, avec pour thème « Jeunesse africaine et promotion des valeurs culturelles ». Ils se sont d'ailleurs réunis ce week-end dimanche pour mettre sur pied les commissions qui sont déjà actives pour mener à bien ces préparatifs. Suivront ensuite les étudiants subsahariens de Tanger, qui eux feront leur journée culturelle le samedi 14 mai 2016. Nous clôturons ce volet consacré aux étudiants subsahariens dans ce journal avec l'assurance maladie obligatoire de base pour les étudiants du public et du privé au Maroc. En effet, depuis la rentrée académique 2015-2016, tous les étudiants marocains du public et du privé bénéficient d'une assurance maladie dénommée assurance maladie obligatoire de base pour les étudiants. Bonne nouvelle pour ceux qui ne le savaient pas encore, cette assurance est également offerte aux étudiants étrangers. Autant les boursiers de l'Agence marocaine de coopération internationale AMCI que ceux du secteur privé. Afin de faciliter l'inscription des étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur marocain a mis sur pied un site formulaire électronique facilement utilisable. Nous invitons donc tous les étudiants subsahariens au Maroc ainsi que tous les Marocains, du public comme du privé, à se rendre sur cme.enssup.gov.ma, cme.enssup.gov.ma, munis de leur titre de séjour et de suivre simplement les quatre étapes qui leur permettront de s'inscrire afin de bénéficier de cette assurance-là. D'après les analyses des professionnels du droit, ce nouveau régime des étudiants est considéré comme un pas important vers la consécration du droit constitutionnel de l'accès aux soins et à la couverture médicale ainsi qu'à la protection sociale. Selon les mêmes estimations de ces experts que nous avons consultés, ce régime profitera à plus de 288 000 étudiants au titre de l'année académique en cours, parmi lesquels plus de 10 000 étudiants subsahariens au Maroc. Maroc, terre d'accueil. Le Vox Pop de ce soir porte sur les expériences magnifiques et heureuses entre subsahariens et marocains et les souvenirs que les intéressés gardent de telles expériences. Sana Eloisi et Eric Mvandomanga ont sillonné les rues des principales villes du Maroc pour interroger marocains et subsahariens sur leur bonheur réciproque à vivre ensemble. Voici leur récolte.
Il y a cela 2 ans, j'étais à Marrakech et j'ai croisé un ami du nom de Hamza. On était vraiment proches, on est toujours proches encore. Et voilà, je l'ai intégré dans ma communauté ivoirienne, c'est-à-dire qu'il passait du temps avec moi. On faisait tout ensemble, la bouffe ivoirienne, tout. Et durant les vacances, il devait passer un examen. Et puisqu'il avait libéré sa maison, il ne savait pas où dormir, donc je lui ai proposé de passer du temps chez moi à la maison. Donc son examen a duré une semaine ou deux. Et durant cette période, c'était la bouffe ivoirienne, c'est-à-dire le riz, la tchéké et tout ça. Et quand les examens sont finis, il est rentré chez lui à la maison. Et quand il est rentré à la maison, il était habitué à la bouffe ivoirienne. Et il demandait à sa mère de lui faire la bouffe ivoirienne, c'est-à-dire le riz, la tchéké, chose que sa mère ne sait pas faire et tout. Donc après, sa maman m'a invité à venir chez eux à la maison dans les villes. Et quand je suis arrivé et tout, ils m'ont très bien accueilli et tout et tout. Et sa maman disait à chaque fois que « Ah, si toi tu as changé mon fils, parce que mon fils était quelqu'un de fermé, très renfermé, il n'était pas ouvert et tout. Et tu l'as vraiment ouvert et vraiment merci et tout. Et tu l'as même habitué à une autre bouffe que je ne connais pas. Il parle tout le temps du riz et de la tchéké et tout ça, quelque chose que je ne connais pas et que donc tu l'as habitué et tout. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué et tout. Et ça a beaucoup plus renforcé notre amitié entre lui et moi. Mais c'est quelque chose qui m'a manqué et qui m'a marqué plutôt et que voilà, j'ai en mémoire C'est un ami vraiment sec.
Bon, je garde beaucoup de souvenirs avec un ami congolien qui est la prochaine, la dernière fois à Tirana, Albanie. Et il est voté à la proposition marocaine de Sahara marocain.
Salam. Je suis Mustapha. J'ai beaucoup d'amis subsahariens. Subsaharien, comme par exemple, j'ai un Smicho Emma, Tikra Maya, il est gentil, Drayuf, Titiam Mzian, Hnayak Halchout, ou Tinchtnaf la classe, et je l'ai rien à dire.
Donc l'expérience que j'ai eue, c'était d'une fille que j'avais connue lors de ma formation. Le surplus que j'ai eu avec elle, que j'ai ressenti avec elle, c'est que une fois on n'avait pas fini la formation, mais elle avait quitté la formation et on était resté des copines, c'est-à-dire que rien n'avait changé. Et j'ai compris que au fait, c'était ça l'amitié qui nous réunissait. C'était pas uniquement l'information qui était notre point en commun. Donc, on se voyait toujours, on fêtait nos anniversaires ensemble, on prenait des cafés, on déjeunait, on dînait ensemble. Donc, c'était ça la continuité de l'amitié. C'était malgré la formation qui nous a plus réunis, mais l'amitié était toujours là.
Subsaharien au Maroc, la page du droit. Nous ouvrons ce soir notre semaine d'enquête, d'analyse et d'enseignement sur le droit de bail. Ange Désiré, vous êtes là et vous nous dites que le droit de bail est une question importante que chaque étranger au Maroc devrait pouvoir se renseigner à propos.
Oui, effectivement, Herman. Nous nous intéressons aujourd'hui aux conditions d'établissement du contrat de bail ainsi qu'à ses implications. Il s'agit là d'une question qui nous intéresse de très près vu les nombreux problèmes qui peuvent survenir lors de l'exécution de ce contrat. Alors, quels sont réellement les droits et devoirs de l'une ou l'autre des parties concernées lorsqu'il y a location d'un local à usage d'habitation? Telle est la question.
Oui.
C'est la loi 67-12 du 28 février 2014 qui sert de cadre légal ici. Il faut tout d'abord préciser que cette loi ne fait pas de distinction entre étrangers et nationaux en ce qui concerne la location d'un local à usage d'habitation. Même si à la lumière de son article 3, la nationalité des contractants fait partie des mentions obligatoires du contrat, celui-ci n'influe pas vraiment sur la suite. Voilà.
Et donc, ça veut dire que, est-ce que en tant qu'étranger au Maroc, j'ai les mêmes droits en tant qu'étranger locataire, j'ai les mêmes droits qu'un Marocain dans un contrat de bail?
Oui, oui, effectivement, c'est cela même. Il n'y a pas de distinction, comme je viens de le dire, comme nous venons de le dire.
Oui.
Voilà, il n'y a pas de distinction. Le caractère, le contrat de bail conserve son caractère obligatoire.
Oui.
Voilà,
oui.
Pour tout le monde.
Oui.
Donc, avant d'aménager dans une maison, il faudra que le contrat soit tout d'abord signé entre les parties et authentifié à la Mokata.
Voilà. Alors, pourquoi il y a cette nécessité absolue d'avoir un contrat?
Voilà.
Du point de vue du droit.
On va y venir. En fait, c'est le contrat qui sert de cadre légal, ouais, qui prouve en fait qu'il y a un certain lien entre le bailleur et le locataire. Voilà, parce que sans contrat, bon, c'est vrai, je peux aménager tranquillement, j'aménage, j'ai mes affaires et tout, mais il y a des risques de part et d'autre.
Justement.
Voilà,
oui.
Parce que déjà, le bailleur, il peut se présenter un matin et et m'expulser, par exemple.
Oui.
Voilà. Je ne pourrais pas me plaindre parce qu'il n'y a pas de... y a rien qui prouve...
Il n'y a aucun document administratif légal.
Voilà, qui prouve ma présence dans ces murs, en fait. Et je peux, par exemple, aussi, moi, locataire, sachant qu'il n'y a pas de contrat, un matin plier mes affaires, ramasser mes affaires et partir sans payer le loyer, par exemple.
Oui.
Le bailleur, lui également... ne pourra pas se plaindre, ne pourra pas. En fait, il sera, comment dire, impuissant face à la situation.
Oui.
Voilà. C'est là, en fait, c'est là même la nécessité, voilà, la nécessité même du contrat.
Oui.
Voilà. D'autant plus qu'il précise les conditions de la location, les noms et prénoms des parties, les pièces, les numéros de pièces d'identité, le prix, la date de début et de fin, la date de paiement, le montant, voilà, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui va faire office de preuve.
Justement, voilà. je voudrais, Ange, que tu peut-être t'appesantis un peu sur cette question de date de paiement, parce que beaucoup d'étudiants qui prennent des maisons en location sont souvent harcelés par leur propriétaire à la fin du mois ou juste au début du mois, afin qu'ils payent. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que les étrangers, au moment de la signature du contrat, mettent sur le contrat la date ou la période à laquelle ils doivent payer?
Oui, évidemment, c'est même prévu par la loi. Hein.
Oui.
C'est leur droit de décider, avec le bailleur, bien sûr, d'une date à laquelle ils devront payer le loyer.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est une mention qui doit apparaître sur le contrat. Et voilà, à chacun de respecter... voilà cette date-là qui serait prévue.
Oui, mais maintenant, si dans le contrat, il est prévu, par exemple, de payer son loyer avant, le contrat dit qu'il faut payer son loyer avant le 7 de chaque mois, et que mon bailleur marcelle tous les mois depuis environ 4-5 mois, il marcelle à partir du 1er ou du 2 en m'exigeant de payer son argent, est-ce que j'ai le droit de me plaindre?
Voilà. Déjà, vous avez le droit de vous plaindre et aussi de... C'est une raison suffisante pour rompre le contrat, voilà, d'avec le bailleur, parce que j'allais en venir même. La rupture du contrat, bon, on fait un saut en avant.
Oui.
La rupture du contrat est soumise au consentement des parties, sont le locataire et le bailleur. Et donc, c'est une condition suffisante pour rompre le contrat, même si cette rupture-là n'est pas forcément à l'avantage du locataire. Voilà. Et donc, ce qu'il y aurait lieu de faire ici, ce serait d'essayer de régler ça de façon amiable.
Amiable. Parce qu'il faut quand même dire que pour renouveler son titre de séjour, le locataire étranger aura toujours besoin de justifier d'un logement et donc d'un contrat de bail.
Exactement, voilà. Et juste après ça, nous en venons à la question du loyer, de la caution et du reçu de paiement. Déjà, le contrat mentionne, comme on a déjà dit, le montant du loyer ainsi que toutes les sommes à verser, que le locataire doit verser en fait au bailleur.
Oui.
Voilà. Et la loi dit que la caution ne doit pas excéder 2 mois de loyer.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on entend exactement par caution?
Voilà. En fait, la caution, c'est une garantie. C'est une somme d'argent qu'on verse au bailleur.
Oui.
Voilà. C'est une sorte de garantie dans le cas où il y aurait peut-être détérioration de quelque chose dans la maison.
D'un bien immeuble.
Voilà, justement. C'est une caution qui est remboursable, en fait. Voilà. Et donc... Après la rupture du contrat, c'est une somme que le bailleur se doit de restituer 1 mois maximum, comme le précise la loi, après la dite rupture.
Oui.
Voilà, 1 mois maximum après la dite rupture, la caution doit être remboursée si l'état des lieux dit qu'il n'y a pas de
détérioration
dans la maison.
Si la maison a été restituée au propriétaire dans l'état où le locataire l'avait pris.
Voilà.
Mais est-ce que la pratique qui consiste au moment où je quitte ma location. Justement, dans le cadre, généralement, on rencontre ça beaucoup dans les colocations.
Oui.
Au moment où je quitte la colocation,
oui.
Le pourcentage qui me revenait dans la caution, je récupère chez celui qui me remplace. Et est-ce que c'est une pratique légale, finalement, de ce transfert de caution de gré à gré entre locataire sortant et nouveau locataire entrant?
Bon, ça, c'est pas... C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Tant que bon, c'est aussi ces deux personnes qui sont liées par un contrat également, même si ce contrat n'est pas écrit comme le contrat de bail. Voilà. Tant que ces personnes sont d'accord sur le principe, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Voilà, il faut juste qu'elles soient d'accord.
Donc la loi ne l'interdit pas en tout cas.
Non, du tout.
D'accord.
Du tout. Voilà. Et à côté de cela. La nouvelle loi, la loi que nous avons évoquée plus haut,
oui.
Donne le droit, faut bien le retenir, donne le droit aux locataires d'exiger un reçu de paiement. C'est très important.
Oui.
Parce que généralement, on paye le loyer et c'est tout. Oui. Alors que le propriétaire voilà, peut, soit par mauvaise foi, soit par oubli, voilà, contester
le paiement.
Voilà. Et donc, le reçu vient appuyer le fait que, voilà, le loyer était encaissé.
Surtout, il faut le préciser, surtout dans les cas des colocations.
Voilà.
Où parfois, c'est X qui a payé.
Voilà, qui est chargé de payer.
Voilà, il faut toujours avoir une preuve du paiement.
Voilà, et c'est mon cas moi-même actuellement. Je suis responsable en griffe de mes autres colocataires, voilà,
oui.
Vis-à-vis du bailleur.
Oui.
Je prends le loyer chaque mois et je paye au bailleur. Et voilà, quand je disais à mes colocataires, faut qu'on exige un reçu, elles disaient, ah non, tu es dur, tu es ceci. Je dis, mais non. Quand après, il y aura un problème, ce sera moi qui sera face à cela. Donc,
oui.
Voilà, il me faut être dur. Même si on s'entend bien avec le bailleur, ça
oui.
ne garantit rien.
Oui.
Voilà.
Merci Ange-Christelle pour toutes ces informations. Nous rappelons, chers auditeurs, que tout au long de cette semaine, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, nous allons creuser cette question sur le droit du bail. Demain, nous continuerons avec Ange-Christelle à en savoir davantage pour permettre à tout un chacun de connaître l'environnement du droit dans la maison dans laquelle il habite et la relation légale qui le lie avec son propriétaire. Initiative africaine du jour, Culture Mosaïque, a joint par téléphone pour vous, chers auditeurs, un groupe de jeunes entrepreneurs camerounais nés au Cameroun, ayant fait leurs études au Cameroun, ayant fait leur formation au Cameroun, ayant marqué leur attachement à leur pays et lancé une initiative très marquante, la création d'un magazine entièrement numérique, entièrement consacré à la femme africaine. Femme Update est l'initiative de la jeunesse africaine en l'honneur ce soir. Karine Jouel Alemouka a répondu aux questions de Culture Mosaïque. Écoutez ses réponses.
Bonsoir, je suis Karine Jouel Alemouka, rédactrice en chef du magazine Femme Update. C'est un honneur pour moi de vous présenter le magazine Femme Update, qui est un magazine féminin. Nous sommes partis d'un constat. Au Cameroun, les magazines féminins qui étaient lus étaient beaucoup plus des magazines étrangers. Alors nous avons décidé de créer un magazine typiquement féminin qui ne serait pas à caractère culturel ou à caractère people. Nous voulions vraiment mettre l'accent sur la femme, sur la girl next door, entre guillemets, on va dire. Cette femme-là dont on ne parle jamais, mais qui vit son quotidien et qui fait partie du paysage camerounais. Pour toucher une grande partie de notre cible, nous avons décidé d'être un magazine en ligne. C'est vrai qu'il y a des pics dans l'année où nous sortons des éditions spéciales, mais c'est beaucoup plus un magazine en ligne parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes étaient de plus en plus connectées sur Internet via leur smartphone. Ou leur tablette. Alors, nous avons voulu exister d'abord sur la toile avant d'exister sur papier. Nous avons voulu briser la barrière du prix parce que nous savons ce que c'est que d'acheter un magazine. Beaucoup de gens ont perdu cette habitude-là, surtout depuis que la plupart des magazines existent en version numérique. On n'a qu'à ouvrir son smartphone et puis lire ce qu'on veut. Et nous nous sommes dit que les annonceurs allaient nous suivre. Dans notre stratégie de communication, il est prévu d'aller d'abord vers notre cible et d'aguicher les annonceurs à partir du nombre de lecteurs qu'on aurait. C'est pour ça que nous avons décidé de fonctionner de manière gratuite, parce que ça ne servait à rien en plus d'éditer un magazine, de le vendre pour ne pas avoir de clientèle. Nous avons plusieurs rubriques qui concernent toutes les femmes, tout ce qui touche à la femme en fait, la santé. Nous avons un thème qui peut être un thème social, juridique, ou psychologique. Nous parlons d'enfants, nous touchons beaucoup de mères. Notre rubrique phare, c'est Une femme, un projet. Cette rubrique-là porte carrément le magazine parce que nous allons vers une femme, nous racontons un peu une success story, celle d'une femme qui s'est démarquée dans son secteur d'activité, qui n'est peut-être pas connue par le grand public. On a décidé de mettre des inconnus en valeur à travers cette rubrique-là. Nous avons parlé d'une dame qui est architecte d'intérieur, par exemple. Nous avons parlé dans le dernier numéro, le numéro de mars, d'une femme flic qui était engagée dans les opérations de maintien de la paix. Nous voulons faire la promotion du genre, c'est vrai, mais la promotion aussi des professions vers lesquelles des gens n'osent pas aller, ou alors des professions de l'ombre, on va dire. À côté de ces grandes rubriques-là, nous pouvons trouver aussi, comme dans tous les autres magazines, des recettes de cuisine, des astuces beauté ou décoration, bref, tout ce qui concerne les femmes. Là, nous sommes en phase de rognage. Nous avons prévu que les 5 premiers numéros seraient en fait des tests. Nous avons des retours favorables, surtout sur notre page Facebook « Victoire Femmes ». Nous avons de bons commentaires, surtout des professionnels du domaine de la communication, et c'est très encourageant. Là, nous allons lancer notre campagne de communication après le 5e numéro, et on verra en ce qui concerne la réceptivité du grand public. Mais pour le moment, ça semble marcher. Femme Update est née de l'initiative de deux personnes, le directeur de publication, M. Lamine Chouente, et moi-même, mais nous avons une équipe de rédaction composée en partie de bénévoles de la diaspora. Je dois dire que nous avons des journalistes très dynamiques, tels que Madame Essangui Epassa, qui vit au Canada, mais qui nous envoie ses articles très très souvent, qui sont d'ailleurs la plupart du temps publiés comme thèmes centraux. Nous sommes ouverts à toute proposition venant de la diaspora. Nous aimerions d'ailleurs créer une rubrique pour les Camerounais de la diaspora et nous attendons également que cela vienne vers nous. Je crois que ça sera très effectif à partir du moment où le média sera ouvert au grand public. C'est vrai qu'Internet est venu briser les barrières qu'on avait lorsque le magazine était imprimé sur support papier. Pam Update espère apporter une dynamique nouvelle dans le monde des médias, surtout dans le monde du magazine. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous allons changer le monde, mais nous espérons vraiment faire bouger les choses, surtout au Cameroun, où il semble que la femme est de plus en plus mise en valeur. Nous espérons vraiment que Femme Update apportera sa pierre à cet édifice-là pour que l'égalité homme-femme soit effective dans notre pays et aussi dans les pays, je ne sais pas moi, les plus opprimés dans le monde. Nous voulons être un exemple pour la femme, pour les jeunes, même pour les hommes, pourquoi pas. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre projet qui est notre petit bébé. Nous espérons qu'il grandira assez vite et assez bien. Nous tenons aussi à remercier tous ces bénévoles-là qui nous envoient leurs articles, étant une toute jeune équipe. Avec des moyens très, très limités, nous n'avons pas encore de journalistes, mais nous arrivons à produire quelque chose malgré tout.
Karine Jouel Alemouka répondait aux questions de Culture Mosaïque dans le cadre de l'initiative africaine du jour demain. Culture Mosaïque vous présentera également l'initiative Fa Création avec Fatima Fa Opa qui est du côté de Paris, sénégalaise, et qui prépare un retour majestueux sur la terre mère, la terre africaine. La page de l'économie culturelle africaine ce soir nous amène du côté du marché de l'édition et du livre en Afrique. Depuis hier, Najla Zeroual nous amène sur ce territoire de l'industrie éditoriale et de l'industrie du livre, en passant par le livre imprimé et le livre numérique. Vous nous dites ce soir, Najla, que la France, ancienne métropole, continue d'asservir, pour ne pas dire d'avoir le monopole, sur le marché des idées, sur le marché du livre en Afrique.
De manière générale, l'édition francophone est encore dominée largement par l'édition française. L'édition de livres en Afrique francophone reste encore difficile jusqu'à maintenant. Peu d'États ont mis en place une politique de livres qui offrirait une possibilité de soutien à l'édition. Les livres sont encore assujettis à la TVA, les entrants pour la fabrication du livre sont importés et taxés, le réseau des libraires est encore faible et ne permet généralement pas de couvrir toutes les régions d'un pays. Les éditeurs africains n'ont pas encore accès au marché scolaire. La circulation des livres continue donc de se faire à sens unique. Depuis l'ancienne puissance coloniale, la France vers ses anciennes colonies d'Afrique, de la Caraïbe et de l'océan Indien. Plus préoccupant, les grands noms de la littérature francophone ont été inspirés par ce centre. On importe des talents, on exporte des livres, mais on n'exporte ni les labels ni les droits. Et si l'on ne dispose que de peu de données internes au marché du livre en Afrique francophone, les données de l'export du livre français à l'étranger apportent un éclairage intéressant. On peut observer qu'à l'échelle internationale, l'exportation du livre africain en France ne signifie pas grand-chose. Si l'on se réfère aux chiffres de la centrale de l'édition, l'Afrique représente 40 millions d'euros d'exportation d'ouvrages pour un peu plus d'un million d'euros d'importation, soit un rapport d'ouvrages importés d'Afrique vers la France contre 40 ouvrages exportés de France vers l'Afrique.
On espère qu'avec le travail des éditeurs africains, l'Afrique va pouvoir remporter ce combat, tout comme Shaka Zulu avait remporté le combat contre ceux qui voulaient oppresser son peuple. Il s'agit effectivement du peuple Zulu. Hier, Omar Kone nous a mené dans les traces historiques et les origines de ce peuple. Aujourd'hui, Omar, vous nous présentez les coutumes, les traditions ainsi que les religions du peuple Zulu.
Bien évidemment, après avoir parlé de la tradition et l'origine des Zoulous, aujourd'hui nous allons nous baser sur la religion, la coutume et des Zoulous. En terre Zoulou, le sacré se trouve partout, persistant aussi bien à travers les traditions de la culture Zoulou que dans différents lieux de culte. Par exemple, dans les églises catholiques que nous avons visitées, la religion chrétienne est en effet très répandue à travers toute l'Afrique du Sud. Mais il est parfois difficile de respecter les traditions de la religion catholique en même temps que celles de la culture zoulou. Par exemple, dans cette dernière, il est tout à fait respectable de prendre plusieurs femmes en tant qu'épouses, pratique rejetée par les chrétiens. Mais heureusement, des églises respectant les deux formes de sacré ont été dressées un peu partout dans le KwaZulu-Natal, entre guillemets les Zion Church. C'est ainsi que l'on trouve à travers les villages ces pierres blanches qui encerclent des maisons. C'est un signe d'appartenance à la Zion Church, ainsi qu'un emblème de protection contre les mauvais esprits. Il y a donc une association entre le respect des ancêtres, croyances traditionnelles Zoulou et la religion catholique. Le sacré Zoulou survit donc dans le territoire sud-africain, se modernisant en harmonie avec les différentes cultures et religions qui habitent ces pays à présent. Le sacré, ce n'est plus seulement les traditions et les croyances, c'est son développement dans notre société et tous ces nouveaux concepts.
En tout cas, dans ce studio, nous ne sommes pas adeptes de la Zion Church, mais nous sommes plutôt adeptes de la viralité, du clic et du like. Vous êtes nombreux à nous suivre sur www.culturemosaïque.com. Merci de continuer de liker notre page, de la partager, ainsi que de suivre notre chaîne YouTube sur Culture Mosaïque. Et justement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, Eric Mvandomanga a traîné sa loupe tout au long de cette journée. Il nous fait la revue des réseaux sociaux africains.
Les déboires judiciaires n'en finissent pas pour l'homme d'affaires camerounais Yves-Michel Fosso, dont la justice a requis une condamnation à vie après avoir écopé de 25 ans de prison qu'il purge déjà. Condamné pour détournement de fonds publics à hauteur de nombreux milliards de francs CFA, il se pourrait qu'il y soit pour très très longtemps. Cependant, une partie de la société pense que les décisions rendues sont à tête chercheuse. Entre interpellation et condamnation, nombreuses sont les personnes qui devraient se trouver dans les geôles pour les mêmes faits. Sur Facebook, les avis restent très partagés et la nature des commentaires frise plus avec appartenance ethnique que rationalité sur les faits. Alors qu'hier, nous restions muets et surpris par le décès du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, les polémiques sur les causes de sa mort semblent s'amplifier. Une toute autre vidéo que celle de la chaîne nationale RTI est apparue ce matin, vidéo dans laquelle on aperçoit un individu déplacer le micro principal de l'artiste vers les loges et en ramène un autre quelques instants plus tard. Le micro, s'interroge les panélistes d'une chaîne congolaise, aurait été empoisonné. Défection de celui-ci ou sale besogne, les résultats de l'autopsie parleront d'eux-mêmes. La vidéo a fait 43 000 vues et autant de partages seulement en 7 heures. Restons dans les grands lacs avec plus précisément au Burundi pour signaler que le général de corps Kararuza a été tué hier alors qu'il déposait sa fille dans un lycée de Bujumbura. La situation d'instabilité semble-t-il liée au maintien du président Nkurunziza au pouvoir exaspère une partie de la communauté internationale et plus encore une grande fraction des citoyens burundais souhaitant le voir partir. Sur certains commentaires, notamment des réseaux camerounais et congolais sur le poste, on peut lire « La révision constitutionnelle, le pays cache au Burundi ». Un autre internaute propose « Des institutions fortes que d'hommes forts au pouvoir ». Enfin, nous ressortons ce soir avec cet autre fait survenu à Madrid, en Espagne, où un citoyen de nationalité marocaine a été abattu froidement par un élément de la Guardia civile après que celui-ci, à bord de son véhicule et après un carambolage dont il n'a pas été la cause, soit venu heurter le véhicule du dit agent de la gendarmerie espagnole. Il s'ensuivra une dispute et le pauvre recevra 5 tirs sur la tête. Les différents réseaux sociaux marocains ne sont pas restés insensibles à ce fait autre. Concernant les bavures des hommes en tenue, plus répressifs, prêts à dégainer qu'à consoler.
Merci Eric Vandon. On rappelle que vendredi prochain, vous serez avec nous, toujours dans le cadre de la chronique du web. Et cette semaine, votre recherche porte sur quoi ?
Cette semaine, nous allons parler de l'Occident, oui, qui est un tout petit peu partie prenante pour certains chefs d'État,
oui,
qui restent longuement au pouvoir, qui veulent modifier les constitutions et pour pas d'autres.
D'accord. Merci, chers auditeurs. Restez à l'écoute, car dans une poussière de secondes, nous allons nous installer, nous allons prendre nos cartables. Ce sera la leçon de Darija avec Sana et Loisir. Salam alaikum, Sana El Wazi.
Salrir Herman.
Salel Nord.
Ça va?
Marhaba, ça va très bien. Et toi?
Très, très bien.
Chinoisienne. Alors, ça ce va, soir, tu vas nous apprendre des expressions interrogatives courantes en darija.
Tout à fait.
Alors justement, parce que souvent, on ne sait pas comment demander son chemin, on ne sait pas comment demander quelque chose au taximan ou à l'épicier. Et je pense que ce soir, en ressortant du journal, nos auditeurs pourront s'y prendre avec un peu plus de brio.
Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre cette expression que nous pouvons utiliser dans notre quotidien pour pouvoir poser des questions. Mm-hmm. Donc commençons par la première expression qui est « comment ». Donc « comment » qui désigne en darija « qui fâche ».
Qui fâche.
Voilà. Donc par
c'est
exemple…
C'est pas quelqu'un qui se fâche, non?
Non, c'est-à-dire, tu n'as pas compris quelque chose et tu demandes une explication, des clarifications, bah, tu demandes comment à la personne, et donc c'est qui fâche.
Qui fâche, d'accord.
Voilà, donc ça s'écrit de la manière suivante, c'est K-I-F-A-C-H.
Qui fâche.
Qui fâche. Après, combien ? L'expression combien, donc, qui désigne en darija, shhal.
Shhal.
Shhal. Donc, c'est C-H-H-A-L.
Chal.
Chal. Ouais. Tout à fait.
Donc, c'est pas comme si je voulais dire cheval, mais j'enlève le V.
Tout à
et
fait.
Et ça fait chal.
Tout à fait.
D'accord.
Ouais. Donc, c'est juste, il y a le son H voilà. Au milieu.
Chal.
Tout à fait. Et donc, il y a l'expression quand. Mm-hmm. Donc, qui désigne en darija Ouktash.
Oktash.
Oktash.
Ça, je ne savais pas. Uh-huh. Oktash.
Mm-hmm.
Oktash. Mm-hmm. Si je vais par exemple dire
j'étais, en fait, il y a deux manières de dire quand.
Oui.
Donc, on dit soit oktash, soit imta.
Imta ou oktash.
Oktash. Voilà. Donc, pour oktash, ça s'écrit de la manière suivante. O-U-Q-T-A-C-H.
O-U-Q-T-A-C-H.
Oktash.
Oktash.
Et il y a imta.
Imta, c'est des synonymes en fait.
Tout à fait.
Qui signifie quand.
Quand.
Donc, c'est le questionnement sur le temps.
Imta, c'est plus simple.
Oui, imta.
Qui s'écrit de la manière I-M-T-A.
Voilà, imta.
Imta. Après, où, pour demander le lieu.
Oui.
Voilà. Donc, où, fin.
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 Ouais.
F-I-N.
Oui.
Fin.
Fin.
Mm-hmm. Après, le pourquoi. Pourquoi. Alash.
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 Donc, pourquoi tu as fait ça? Alash derti hachi.
Alash derti hachi.
Alash derti hachi, voilà. Mm-hmm. Donc, alash, c'est toujours le son A. L-A-C-H.
Il y a le son H au début.
L-A-C-H.
Alash.
Alash. Voilà. Après, quoi? Quoi? Ashnou.
Ashnou.
Donc, Ashnou, quelqu'un par exemple qui t'appelle, qu'est-ce que tu veux par exemple? Quoi? Ashnou.
Ashnou.
A-C-H-N-O-U.
Ashnou.
Ashnou.
Ouais.
Ashnou. Par exemple, des fois on peut dire Smahli. Mm-hmm. Par exemple, Smahli, c'est Ashnou, c'est aussi pour attirer l'attention de quelqu'un.
Oui.
Et donc tu peux dire aussi Smahli.
Smahli.
Oui, Smahli. Après, la question qui ou qui est-ce? Shkoun.
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 C'est... Un peu quand on frappe à la porte, on dit
«
Shkunaya », c'est qui est là, qui
voilà,
est là.
Voilà, c'est qui est là, donc « Shkun ». Donc ça s'écrit C-H-K-O-U-N.
Shkun.
Shkun. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci Sana et Loisy, on espère que à la longue de chaque édition de ce journal, chers auditeurs, vous apprendrez à mieux vous exprimer en darija. Nous rappelons qu'il y a beaucoup de centres au niveau de Rabat ainsi que des autres villes du Maroc qui offrent des formations. Il est important pour tout étranger résident sur le territoire marocain de savoir utiliser cette langue qui nous permet effectivement de bien vivre avec nos amis marocains. Journée culturelle et scientifique des étudiants subsahariens au Maroc, le Vox Pop sur les magnifiques histoires qui entre subsahariens et marocains qui nous ont été relatés par Erin Vandomanga et Sanaël Loisy qui ont fait le micro-trottoir. La page du droit, nous avons ouvert notre grande équipée sur le droit du bail. Continuez à nous écouter tout au long de cette semaine pour en savoir davantage. Dans le cadre de notre page Initiative africaine, nous sommes allés au Cameroun où nous avons rencontré Karine Joël Alemouka, rédactrice en chef du journal magazine en ligne Femme Update. Demain, nous recevrons Fatima Opa, qui est du côté de la France et qui nous parlera de la marque Facréation, une marque qui veut offrir à l'Afrique un design de mode propre à sa tradition. Najla Zeroual nous a parlé de la politique économique autour de l'édition et du livre en Afrique. Elle continuera à s'équiper également toute cette semaine. Omar Kone continuera demain à nous parler du peuple Zoulou. Erin Vandor sera toujours présent pour la revue du web. Et merci encore à Sana et Loisy qui sera là présente demain pour une autre leçon de Darija. Anna Herman, j'étais content de vous présenter ce journal et je vous dis rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, même adresse www.culturemosaïque.com, culture avec un K au début, mosaïque avec un K à la fin, c'est le K de Kama, Rums, de la tribu de Kémite, la terre des ancêtres, la terre africaine.